sommaire. Un forum pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin se tient depuis ce vendredi à Kinshasa et ira jusqu'à dimanche. Il s'agit de la foire de la femme commerçante organisée par l'Union des femmes commerçantes du Congo. Et puis les Congolais qui travaillent chez les Indo-Pakistanais dans le Congo central sont mécontents. Ils l'ont manifesté dans un mémorandum remis aux autorités de la province. Ils se plaignent des injures publiques et à répétition de la part de leurs employeurs. À Kinshasa, ce sont plutôt les agents du programme national de la protection sociale qui se plaignent. Ils se disent victimes de licenciements abusifs suite à une décision du vice-premier ministre en charge de l'emploi. Vous le suivrez dans cette émission. D'abord, cette décision du gouvernement de la RDC qui donne son aval à la compagnie chinoise China Mobib Denum à racheter les parts de Freeport MC Moran dans Tekefungurume Mining. Mais cette opération doit se faire dans le respect des droits de la GECAMINE. Cette décision du gouvernement congolais est contenue dans un communiqué du ministère des Mines signé hier par Martin Kabouloulou. Le gouvernement justifie sa décision par les soucis d'améliorer l'environnement des affaires et de créer des conditions favorables à la croissance économique durable. La RDC, par cette décision, ouvre ses portes à tous les investisseurs de tous horizons qui désirent apporter leurs capitaux malgré les ralentissements du cycle des matières premières et l'incertitude de l'économie nationale. Alors, que dit la GECAMINE qui avait porté l'affaire devant la Cour internationale d'arbitrage? Nous y reviendrons. Je le disais au sommaire, ouverture ce vendredi à Kinshasa, de la foire de la femme commerçante organisée par l'Union des femmes commerçantes du Congo, IFECO. Objectif, promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Pendant 3 jours, soit du 28 au 30 octobre, les femmes vont exposer leurs produits. Des rencontres B2B sont prévues et des ateliers d'échange avec la SONAS et le ministère des PME. On écoute Madame Fideli Chibichabene, présidente de l'IFECO.
Notre lit se commis est de voir la femme commerçante devenir autonome, c'est-à-dire capable de se prendre en charge. La femme commerçante occupe une place de choix dans notre société. Nous pensons que pour avoir une classe moyenne dans notre société, afin de limiter les écarts entre les riches et les pauvres, les efforts doivent être fournis dans les camps de soutien au commerce des femmes. Car la femme, par son commerce, tient la famille, et la famille est la cellule mère de la nation. Malheureusement, la femme commerçante est exclue dans les circuits financiers et de formation moderne. Le soutien au commerce des femmes par nous, non seulement de l'appui financier, mais aussi de la formation.
Pour sa part, la ministre du Commerce extérieur encourage les femmes à plus d'entrepreneuriat, Madame Kudjanza Bayokisa.
Le commerce est une activité qui permet les échanges des biens et services entre les producteurs, les distributeurs et les consommateurs finaux. Ces échanges créent des richesses et contribuent à l'épanouissement des communautés, des villes et au développement de la plupart des pays qui sont aujourd'hui des grandes puissances mondiales. Conscience de cette réalité, la République démocratique du Congo a mis en place une série de mesures pour la promotion du commerce sur son territoire, notamment l'institutionnalisation d'un cadre juridique et judiciaire des affaires sécurisées, l'adhésion à l'OADA, l'installation du guichet unique intégral du commerce extérieur et la suppression de certaines taxes perçues sans base légale ou jugées inopportunes. Elle a aussi conclu plusieurs accords commerciaux pour faciliter son commerce extérieur.
C'était un dossier réalisé par Nadine Foulantimba. Et puis les travailleurs de Indo-Pakistanais de la ville de Matadi, nous sommes au Congo central, exigent le départ de 2 sujets libanais. Et pour cause, ils sont accusés de s'illustrer par des injures publiques répétées. Ces agents vendeurs de magasins de Libanais de Matadi l'ont fait savoir dans un mémorandum adressé hier à leur patron, aux autorités urbaines et aux services de sécurité de la ville de Matadi. Outre cette demande, les travailleurs de ces expatriés exigent que les nouveaux engagés signent des contrats en bonne et due forme. Aujourd'hui, soutiennent-ils, ce n'est pas le cas, c'est plutôt la violation du code de travail. Guy Roger Niampala, éclairage.
Ce mémorandum comporte 17 revendications de ces agents qui travaillent dans les magasins des Indiens, Pakistanais et Libanais. Ces agents déplorent notamment des conditions de travail auxquelles ils sont soumis. Ils travaillent trop et le temps de travail n'est pas respecté par leur patron. Autre revendication, tous les nouveaux venus sont presque sans contrat de travail en violation des articles 40, 42, 43 et 44 du code du travail, précise ce mémorandum. Autre manquement, c'est l'application du SMIG. Il est fait sous un taux inférieur du marché officiel. Ces agents sont payés au taux de 900 à 920 francs congolais pour 1 dollar américain. A l'inverse, ils vendent les produits et les changes au taux du jour. Les dettes que ces agents contractent auprès de leurs employeurs sont calculées et défalquées sur leur salaire au taux du jour. Enfin, dans ce mémo, ces travailleurs des expatriés de Matadi envisagent un arrêt de travail jusqu'à l'application du taux du jour dans le calcul de leur salaire à partir de la paye du mois d'octobre 2016. Pas de réaction pour l'instant, ni du côté des autorités urbaines auxquelles le mémo a été également adressé, moins encore de ces expatriés incriminés. Matadi, Guirogé Niampala, Radio Okapi.
Autre actualité, une dizaine d'agents œuvrant pour le compte du Programme national des protections sociales et de la réforme de la sécurité sociale se disent victimes de licenciements abusifs et massifs et qui n'a pas respecté aucune procédure. Ce projet du ministère de l'Emploi, Travail et Progrès Social, ils accusent pour cela le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi. Selon une décision de Willy Makiachi, le relevant de leur poste au sein de ce programme pour absence prolongée, c'est désormais sans emploi, ne reconnaissent pas avoir été le moindre instant absent de leur poste. Suivez plutôt cet entretien qu'Alain de Jonathan Moudichai a eu avec Daniel Tamizoni.
Nous avons remarqué subitement un remplacement au niveau du programme avec une décision qui serait prise et sur base d'un rapport qui aurait été donné au vice-premier ministre, disant que nous avons été d'une certaine manière déserteurs, absence prolongée et nous ne travaillons pas. Et sur base de cela, il a remplacé, il a pris un nouvel arrêté nominant d'autres personnes à nos places. Et c'est sur base de cela que nous avons dit non. Par rapport à ce qui a été fait, il y a un procédé, il y a une procédure qui doit être respectée. Procédure que lui-même, le vice-premier ministre, arrivant à son poste lorsqu'il a été nominé, avait fait parvenir à tout le programme par une note circulaire, nous spécifiant la procédure à suivre en vue d'un remplacement.
Elle dit quoi cette procédure?
La procédure dit qu'un agent qui a été constaté absent doit être convoqué, on doit ouvrir une action disciplinaire. L'agent a aussi, après qu'il ait été constaté qu'il était absent, il a droit à avoir une défense parce qu'il peut être absent sur base d'une maladie pour un cas assez spécifique. Donc c'est par rapport à ce constat-là. Ouvrir un dossier, l'agent s'est défend. Il n'y a aucun agent, en tout cas à ma connaissance, parmi les collègues qui sont avec nous dans le même cas, qui ait fait autant de temps sans se présenter au niveau du ministère.
Vous avez été toujours là?
On a toujours été présent. Il y a des listes de présence qui peuvent le constater.
Mais la décision du ministre, selon ce que vous avez dit, est une suite logique au rapport que lui a adressé le coordonnateur du projet.
C'est ce que nous avons lu dans l'arrêté, la décision qu'il a eu à prendre. Il l'a écrit dans la décision. Le fait de l'avoir écrit ne dit pas forcément que c'est l'état de fait. Il l'a écrit parce qu'il devait prendre une décision. Comme la seule ouverture qui permette des changements sont celles que nous avons édictées ici, donc absence prolongée, désertion, maladie professionnelle, cas de décès. Comme je l'ai dit, nous avons eu 19 remplacements, donc parce que nous avons eu une maladie prolongée et 2 cas de décès. Donc c'est normal dans le programme qu'il y ait eu au moins 3 changements.
Donc avant cela, il n'y avait pas eu de commande d'avertissement.
Nous revenons et nous insistons énergiquement. La procédure en ce cas a été totalement bafouée.
Au ministère du Travail.
Bafouée.
Vous visez quoi par l'action que vous menez?
Nous visons deux choses. Premièrement, une annulation de cette décision pour vice des procédures, excès de pouvoir et favoritisme. Et deuxièmement, nous visons une réintégration à notre poste de travail parce que nous le méritons.
Écho d'économie.
Sur un autre chapitre, la Bralima ferme son usine de Boma. C'est la suite au fait qu'elle est confrontée à une situation économique de plus en plus difficile, ainsi qu'à un profond ralentissement de ses performances financières, tant au niveau national qu'au niveau du Congo central. Ainsi, Cette brasserie se trouve dans l'obligation d'arrêter à partir du 1er décembre 2016 la production de ses boissons à la brasserie des Boma. Dans un communiqué de presse publié hier jeudi, elle souligne qu'en dépit de cette fermeture, toutes ses activités commerciales dans la province du Congo central seront maintenues et renforcées. Le détail dans cet élément que nous propose Nadine Folantimba.
Dans ses communiqués, la Bralima souligne qu'elle fait face depuis 2013 au niveau national à un profond ralentissement de ses performances financières qui l'ont conduit cette année à déprécier ses actifs pour un montant de 233 millions d'euros. L'entreprise subit de plein fouet la baisse constante du marché des boissons liée à un pouvoir d'achat des consommateurs de plus en plus faible, à une augmentation continue de la pression fiscale qui est déjà très forte, à l'instabilité du taux d'échange et à l'augmentation très importante des tarifs d'eau et d'électricité. Cette situation très défavorable a un impact extrêmement sévère sur le Congo central où les ventes de cette brasserie se sont effondrées de plus de la moitié depuis 2014 compte tenu de la baisse constante de la consommation, souligne les communiqués. Par ailleurs, les exportations de la Bralima vers Cabinda se sont quant à elle, tarie compte tenu de la crise économique qui sévit dans cette région. A l'inverse, le Congo central est aujourd'hui inondé par des importations frauduleuses provenant d'Angola et bradées à des prix de 50% inférieurs aux boissons locales. Étant dans une situation critique, la Bralima n'a pas d'autre solution que d'optimiser ses opérations à tous les niveaux pour assurer la pérennité de l'entreprise et continuer à contribuer positivement à l'économie du pays. Cette optimisation, renchérit le communiqué, passe par la rentabilisation des investissements déjà réalisés et par la centralisation des sites de production sans pénaliser les clients et les consommateurs. C'est dans ce contexte que la décision a été prise d'arrêter la production à la brasserie des Boma à partir du 1er décembre 2016 et de continuer à approvisionner le Congo central à partir de Kinshasa. Cette décision difficile a un impact social pour les familles des employés au Congo central et ses communiqués informent que toutes les dispositions ont été prises par la Bralima pour accompagner ceux qui vont malheureusement quitter la société avec un traitement qui sera au-delà de ce que la loi prévoit en la matière. Et le meilleur profil sera redéployé dans d'autres brasseries en fonction des opportunités. Une nouvelle organisation sera mise en place pour assurer les activités commerciales de la Bralima dans la province, soulignent les communiqués.